vie en nomade. Le direct.
Bonjour et bienvenue à ce direct de Pavillon Nomade. Comme tous les jeudis, nous sommes réunis autour de la table du studio en compagnie d'Elvio, d'Eliane, de José, d'Elodie, de Flore, d'Olivier, de Léonie, de Francesca, sans oublier notre complice Matteo à la technique. Bonjour à toutes et tous, merci d'être là. Notre invité fil rouge de ce jeudi est une véritable encyclopédie. Il connaît tout ou presque tout, notamment sur les PAP, sur les bains thermaux, sur les horaires des CFF, sur le métro de Moscou, sur la Suisse et bien évidemment sur son canton d'origine, le Valais. Bonjour Daniel Rosis.
Bonjour Marie-Claude Cudré.
Alors vous nous avez déjà proposé un défi, c'est de ne pas prononcer un mot
oui.
durant cette émission, c'est lequel ?
C'est le mot du truc dans lequel je parle en ce moment.
Donc celui ou celle qui le prononce, eh bien, a un gage, on ne l'a pas encore vraiment défini, je vais essayer de ne pas le dire non plus, ce mot-là. Merci Daniel de nous avoir rejoints autour de la table de Pavillon Nomade. Si vous êtes là, et même s'il n'y a pas besoin d'une actualité pour vous convier à ce truc-là de Pavillon Nomade, c'est parce que ce samedi à Martigny, il y a la grande dictée organisée par la médiathèque, dictée concoctée par vos soins, on va en reparler.
Ouais.
Mais tout d'abord, il y a une tradition, les derniers jeudis du mois, c'est quelques questions sous la forme de si vous étiez.
Ah.
Si vous étiez un mot, Daniel.
Un mot ? Ah. Ah, avec accent. Grave.
C'est un mot
pour vous ? Il faut expliquer ? Bah, c'est une préposition. Je vais à la gare. Je vais à monter. Donc, à, c'est la proposition qui est qu'on pourrait dessiner par une petite flèche, c'est en avant comme ça. Donc je trouve que c'est intéressant d'avoir un A accent. C'est quoi l'accent grave? C'est le grave. Ok. Alors avoir un A accent grave, c'est le mot le plus court de la langue française.
Et c'est un mot qui vous plaît?
Bah, c'est un mot qui veut dire que dans la vie, on doit pas seulement être là, mais on doit viser quelque chose. On va à. Voilà.
Si vous étiez une lettre de l'alphabet.
À. Mais alors sans l'accent, parce que ça me fait penser aux bonnets des soutiens-gorge. Les bonnets A. Et ça suffit, les bonnets A. Il y en a qui ont des bonnets G, F, M. Parce que les pastèques, c'est bonheur, mais les cacahuètes aussi.
Ah, c'est une émission qui commence sur les chapeaux de roue. Allez, on change. Si vous étiez un légume.
Un légume ? Alors, un fenouil.
Intéressant. Pourquoi ?
Parce qu'il y a un poème de Georges Perec qui dit « J'ai essayé d'écrire le plus petit poème du monde. » Il a juste écrit « fenouil ». Mais moi, je pense qu'il aurait pu écrire « A ». Ça aurait été tout aussi bien. Mais fenouil, c'est sympa.
Ah, avec accent ou sans accent ?
Alors, c'est sans accent, avec un F minuscule, parce que fenouil, ça vient d'un mot latin qui veut dire les petits foins. Fenouil. C'est les foins, les petits foins, les petites herbes. Alors, on a un village en Valais qui s'appelle Fin-Haut. Alors, on croit que Fin-Haut... Ça veut dire que c'est tout en haut, puis aux confins du pays. Mais en fait, ça, ils ont transformé un peu pour faire plaisir aux touristes qui voulaient aller au bout du monde, tout en haut. Ils ont appelé ça fin haut, même en deux mots. Fin, F-I-N-H-A-U-T. Mais en fait, fin haut, ça vient d'un mot qui voudrait dire, qui se dit fenil. Et fenil, c'est les granges à foin. D'ailleurs, les habitants de fin haut s'appellent les fignolins. Mais ça ressemble un peu à fenouil. Et quelqu'un parle italien ici ?
Si. Francesca.
Comment si dice fenouil in italiano ?
Finocchio.
Et ça a un autre sens aussi.
Mais en fait, quand vous dites fenouil, petit foin, ça me fait penser plutôt al fieno.
Fieno,
au foin.
Oui,
donc
au foin,
peut-être, ouais. Est-ce que c'est ça le...
L'origine, mais finocchio.
Oui.
En italien, ça s'emploie aussi pour dire quelque chose d'assez rigolo.
Je ne sais pas.
Alors actuellement, le président de Fin-Haut est un Italien d'origine qui bossait à l'EPFL, l'École polytechnique fédérale de Lausanne, qui cherchait un endroit tranquille pour habiter. Alors, il a une trottinette électrique. Puis des fois, je le vois sur le quai à Lausanne. Puis après, il y va jusqu'à Martigny en train. Là, il prend le petit train qui monte jusqu'à Faon. Puis il retourne en bicyclette, comme ça. Alors, je lui dis toujours, mais toi, tu es Fignolin ou Finocchio? Et ça le fait beaucoup rire.
Si vous étiez...
Occhio, ça veut dire l'œil. Ah, oui. Et fin, c'est celui qui a un bel œil, non? Fin occhio.
Si on veut.
Et Pinocchio.
Pinocchio.
Ça veut dire quoi, non, Pinocchio?
J'adore Pinocchio.
Oui, mais Pinocchio, ça veut dire quoi?
Qu'est-ce Pinocchio que ça veut dire? Bah, ça vient du pain, parce qu'il a été coupé l'arbre dans un pain.
Ah, oui.
Donc, il y a Pinocchio.
Ah, Pinocchio. Et puis, voilà. Ah, il a été fait en bois de pain.
Oui. Enfin, j'imagine.
Oui, oui.
C'est... En tout cas, si je peux me permettre.
Mais, allez-y.
Cette émission, c'est d'une ouverture. Je pense que c'est vraiment le sens de la plaisanterie, la légèreté. C'est très, très bien. Et ça me fait rigoler parce que tout à l'heure, il y a quelqu'un autour de la table qui a posé la question. Est-ce qu'il y a des tabous, des mots qu'on n'a pas le droit de dire? Et puis là... Messieurs, vous avez fait un florilège de tous les tabous que vous imaginez.
Ah bon?
Oui, mais avec légèreté, sans oui. malice, c'est oui. c'est
mais
agréable.
Parce qu'il y a une histoire, il y a une histoire superbe. Il y a un vieux monsieur, il s'appelle Giuseppe, mm-hmm. et puis il meurt. Et il arrive au paradis, comme ça, et puis il sonne. Et Saint-Pierre, qui ouvre la porte du paradis, il dit à ce Giuseppe, mais vous avez l'air un peu triste. Il dit oui, parce que j'avais un fils. Enfin, ce n'était pas tout à fait mon fils, mais presque. Et puis, il est mort il y a bien longtemps, et je ne l'ai plus revu, et peut-être qu'il est là. Et Saint-Pierre dit, mais enfin... Il dit, vous faites quoi comme métier? Il dit, je suis charpentier. Il dit, mais Giuseppe, qui est charpentier, il a son fils qui est mort, c'est pas tout à fait son fils. Il va chercher Jésus. Il dit, il y a ton papa qui est arrivé. Alors, il y a Jésus qui arrive à la porte et il voit ce Giuseppe. Il lui fait, papa! Et Giuseppe lui fait, Pinocchio!
Bon. J'avais encore une question.
Oui,
si vous étiez, mais je ne vais pas vous la poser. Le dernier si que j'ai quand même envie de vous poser, si vous deviez vous définir, Daniel Rosis, vous diriez quoi?
Je dirais oh. Ou bien ah. Ou bien oh.
Ou ha ha ha.
Ou bien ha ha.
On va faire une petite pause musicale et on retrouve Daniel et toute l'équipe autour de la table juste après.
J'ai essayé à 100 reprises de vous parler de mon ami. Mais comment parler d'une église dont l'accès vous est interdit? Mais ce soir, je sens sous ma plume un fourmillement familier. Quand le soleil du cœur s'allume, l'éteindre serait un péché. C'est mon ami et c'est mon maître. C'est mon maître et c'est mon ami. Dès que je l'ai vu apparaître, j'ai tout de suite su que c'était lui. Lui qui allait m'apprendre à être ce que modestement je suis. Comme une chèvre vendéenne de ses secrets, il est jaloux. Et même s'il a de la peine, il ne vous parle que de vous. Il conserve de son bel âge un sourire au fond de ses yeux. Et je me dis que c'est dommage de vous le décrire sans cheveux. C'est mon ami et c'est mon maître. Je le vous vois encore aujourd'hui. Et quand j'ai mal dedans mon être, je passe une heure ou deux chez lui. L'air qu'on respire à sa fenêtre, c'est l'air le plus pur de Paris. Il porte en lui dur comme une arme un orgueil au-delà de tout. Au point que même au bord des larmes, il vous fera croire qu'il s'en fout. C'est lui qui a fortifié mon âme. Et si je suis encore en vie, je ne le dois pas à cette femme qui me rend heureux aujourd'hui, mais à mon ami, à mon maître. Et dans la chanson que voici, je sais qu'il va se reconnaître. Mais puisque nous sommes entre amis, ce soir, je peux bien me permettre de vous le présenter aussi.
Elle est pas mal, cette chanson, non?
Elle est très belle. C'est vous qui l'avez choisi, Daniel Rosis.
Ouais, mais je voulais. Parce que des fois, je dis, il faut être gentil.
C'est une chanson gentille?
Bah non, c'est une chanson qui met en avant l'amitié, mais une amitié un petit peu dissymétrique. Donc des fois, on a besoin de quelqu'un sur lequel on s'appuie. Mais s'appuyer, ça ne veut pas dire qu'on est dessus ou dessous. Si vous regardez les voûtes des cathédrales, elles s'appuient l'une sur l'autre. Et c'est pour ça que ça tient, même quand ça brûle.
Ça vous inspire, vous qui êtes autour de la table, ce que vient de dire Daniel ? S'appuyer les uns sur les autres ? Flore ?
Bah oui, bien sûr. Mais je suis assez d'accord avec ce qu'il dit, parce que ce n'est pas écraser l'autre. Au contraire, c'est se compléter quelque part. Peut-être qu'un jour, c'est l'un qui a besoin d'un appui, et le jour d'après, ce sera l'autre. Et c'est important d'être là les uns pour les autres, justement. Tout seul, on a beau se dire souvent « ouais, je vais y arriver », mais quand même, il y a des phases difficiles où on a besoin. On a besoin d'avoir un appui. Je crois que l'être humain n'est pas fait pour être seul. Et on va beaucoup plus loin si on est deux.
Olivier, vous avez envie d'ajouter quelque chose? Non. Léonie, peut-être? Non plus? Quelqu'un d'autre a envie d'ajouter? On le sait, on est à la radio et les auditeurs et auditrices de la RTS ont l'habitude de votre voix, Daniel. Vous êtes un decodeur, vous avez partagé vos connaissances de la musique sur Espace 2, vous avez animé de nombreuses émissions. Quel est votre rapport avec la radio ?
Laquelle ?
En général.
Avec la voix, avec le micro.
Ah !
Comme ça, je peux sortir parce que...
Ah, on n'a pas défini le gage.
Non, alors le mot qu'on n'avait pas le droit de prononcer, c'était celui-là.
Voilà.
Et je vais vous faire un aveu. Je n'ai pas fait exprès. Je suis vraiment tombé dans le panneau. Et je trouve ça magnifique parce que c'est un peu l'arroseur arrosé, quoi. Au revoir. C'est un peu l'arroseur arrosé.
Ah oui.
Très bien. OK.
Maintenant, on peut le dire, alors.
C'était le mot micro qu'on n'avait pas le droit de prononcer. Alors, à partir de maintenant, on va le libérer.
D'accord. Et donc, est-ce qu'on peut tout se dire au micro ?
Au micro, est-ce qu'on peut tout dire ?
Oui.
Mais je vais vous expliquer comment j'ai commencé à faire du micro. Parce qu'en fait, moi, je suis né en 1959. Et quand j'avais 7-8 ans, il y a une invention géniale. C'est la cassette. Avant, si on voulait enregistrer, il fallait des gros appareils à bandes, ça coûtait assez cher. Tout à coup, il y a eu les cassettes. Ça veut dire que pour 100 francs, 120 francs, on pouvait acheter un enregistreur et un petit micro débile, puis une cassette. Alors quand on est enfant, puis qu'on a la chance d'avoir ça, ben, on fait des petits reportages, on fait des trucs comme ça. Mais ce qui est drôle, c'est pourquoi on avait un cassettophone à la maison.
Bonne question.
Parce que les cassettophones, à l'époque, c'était embêtant parce qu'on ne pouvait pas les brancher sur un disque pour enregistrer, on ne pouvait pas enregistrer la radio et tout. Donc, à l'époque, chaque fois qu'on parlait dans ce micro, eh bien, c'était des paroles qui disparaissaient. Même les grandes radios n'avaient pas l'argent pour conserver les éléments et la loi qui donne la possibilité aux radios de faire de la radio, elle ne prévoyait pas qu'il y ait des archives. Alors, on gardait les archives comme ça, pour les réutiliser, mais ce n'était pas une condition légale. Et conserver les archives radio, c'est arrivé dans les années 90, comme ça. Un peu. On a eu des gros traumatismes en Suisse sur l'histoire de la guerre. Et puis on s'est dit, mais c'est important de garder les documents pour plus tard, pour faire ça. Alors à l'époque, c'était très... moi, si je voulais garder enregistrer un disque, je devais enregistrer avec le micro, le ton de disque qui passait, quoi. Puis même au début des CD, on voulait copier un CD sur une cassette, il y avait un truc dans le CD qui interdisait un code au départ d'enregistrer. Alors mon papa, il avait acheté un enregistreur, mais c'est assez rigolo parce que, vous savez, en Valais, on est assez catholique. Et puis, quand on croit en Dieu, c'est sympa, mais Dieu, il est un peu loin. Mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Même, on a raconté l'histoire de Pinocchio et de Jésus tout à l'heure. Même après, même le papa, il peut ne pas le reconnaître tellement il est loin. Alors, puis Jésus, il était cool, mais il est parti. Il reste rien. Je veux dire, certains, par exemple, à Saint-Maurice, il y avait ils se sont fait, ou à Saint-Jean, ceux qui se sont fait, on garde un os. Mais Jésus, on n'a rien. On n'a rien, quoi. Alors ceux qui ont l'envie d'être près de Dieu, ils ont trois manières de faire. C'est trois trucs qui sont blancs.
Blanc de la couleur blanche ?
Oui, c'est les trois blancheurs. Alors, ceux qui sont cathos, ils vont faire la première communion, puis on leur donne des hosties toutes blanches, puis on leur dit qu'il ne faut pas mordre dedans, parce qu'on a peur que le sang y gicle, si c'est vraiment Jésus. Mais on a Jésus, on nous dit que Jésus est dans l'hostie toute blanche. Puis c'est pas mal, parce que ça veut dire qu'on est très près de ce qu'on mange. Moi, par exemple, si je mange de l'ail, on sait pendant un bon moment. Alors, quand on va communier, normalement, on sait pendant un bon moment.
Moi, c'est le rapport à la radio, mais j'attends.
Oui, il y a les deux la deuxième chose qu'on fait pour remplacer Jésus qui n'est pas là, on a habillé un vieux monsieur tout en blanc, puis il cause comme ça, puis on est sûr que ce qu'il dit, c'est à peu près ce que dirait Jésus, c'est le pape. Mais le pape, c'est cool, mais il meurt, il y a un nouveau et tout. Alors les cathos, ils ont l'envie d'avoir une troisième chose blanche qui vient remplacer Jésus. C'est la Sainte Vierge qui vient faire des apparitions. Elle vient à Lourdes, mais elle est toute blanche comme ça. Et puis alors, il y a des milliers de Valaisans qui descendent à Lourdes en train. Comme ça, j'ai un copain qui me racontait que son père, il descendait à Lourdes pour porter les malades. Il descendait avec 6 bouteilles de blanc. Puis quand il revenait, il y a eu un miracle, il n'y avait plus que de l'eau dans les bouteilles, parce qu'il revenait avec l'eau de Lourdes et tout ça. La troisième blancheur, c'est la Sainte Vierge. Alors c'est sympa, Lourdes, mais Lourdes, c'était il y a 150 ans en arrière. Mais on continue d'aller. Hein. Alors on prend, par exemple, quelqu'un qui est sur une chaise roulante, on le jette dans la piscine pour espérer qu'il guérisse. Puis des fois, il sort de l'eau, il n'est pas guéri, mais les pneus sont neufs. Ça, c'est les miracles. Ceux qui ont... Oui, alors la Sainte Vierge à Lourdes, elle est apparue il y a 100 ans, 150 ans. Alors, il y a des gens qui disent, mais zut, quoi, on aimerait pouvoir avoir une Sainte Vierge. Alors, à l'époque, il y a des Saintes Vierges qui apparaissent. Enfin, on dit qu'il y a des Saintes Vierges qui apparaissent dans des villages, comme ça et tout. Mais la Sainte Vierge qui apparaît au XXe siècle, elle parle beaucoup. Alors, ils achètent des enregistreurs pour l'enregistrer. Alors, mon papa, il allait dans un endroit où il y a des apparitions de la Sainte Vierge. Alors, il avait acheté un enregistreur pour enregistrer ce que disait la voyante qu'elle répétait de la Sainte Vierge. Après, il tapait la machine et traduisait en français et tout comme ça. Alors, comme il n'allait pas tous les mois dans ces lieux, moi, j'utilisais l'enregistreur pour faire de la radio tout seul. Alors, je devais aller dans un endroit où il y a plusieurs prises. Parce que tu dois brancher le ton de disque, tu dois brancher la cassettophone, tu dois brancher peut-être le petit piano. Alors, c'est quoi l'endroit où il y a beaucoup de prises? C'est les toilettes, la salle de bain. S'il y a la prise pour se raser, la prise machin et tout. Alors, je m'enfermais dans la salle de bain, puis je faisais de la radio. J'avais 8-9 ans. Et puis, je faisais déjà tout ce qu'on fait à la radio. C'est-à-dire qu'on faisait des jeux, des interviews, des trucs. Et puis, surtout, il y a un gag génial, c'est que des fois, j'avais besoin de plus de prises que j'avais d'appareils. Puis, comme il n'y avait pas les prises, il y avait des piles. Mais un enregistreur, quand les piles, elles sont foutues, la cassette, elle tourne en faisant... Alors j'ai remarqué que si je jouais du piano en m'enregistrant sur un cassettophone dont les piles étaient plates, ça faisait des sons incroyables, du Pink Floyd. Mais ça n'existait pas à l'époque, les synthétiseurs. Vous savez, les synthétiseurs, vous mettez les coudes, c'est un appareil sur lequel vous posez les coudes et vous avez l'impression d'être dans les étoiles. Il y a Pink Floyd, vous avez toutes les musiques planantes comme ça. Comment ils s'appelaient tous ces gens? Emerson, Lake et Palmer. Il y avait Michael Field. Il y avait aussi. Voilà. Bref. Alors, j'ai découvert aussi le bidouillage des sons électroniques à ça. Alors après, d'une fois qu'on fait de la radio, on n'a plus besoin des journaux écrits. Alors j'utilisais les papiers du journal pour les coincer dans le piano entre les marteaux en feutre et les cordes. Ce qui fait qu'au lieu de faire « toing », ça faisait « avec le papier comme ça. Alors un piano joué avec le nouveliste sur les cordes, coincé entre les feutres, enregistré avec un cassettophone dont les piles sont plates, juste ça peut passer à espace 2 entre 22h et 24h le samedi soir dans des émissions de recherche sur les sons comme ça. Donc, voilà.
Et c'est comme ça que vous êtes entré à la radio, en fait, grâce à la Sainte Vierge. Extraordinaire. Vous avez envie de réagir autour de la table.
Oui, Flore. Vous êtes vraiment un phénomène. C'est magnifique de vous entendre parler. J'ai une question, c'est vous en avez fait pendant combien d'années de la radio ?
La radio ? Alors, en 1986, à Carnaval, j'ai glissé. Il y avait une fille pas loin, ce qui fait qu'on a une fille qui est née. Elle s'appelle Lucie, maintenant la directrice d'un théâtre, comédienne, metteuse en scène et tout. Et je me suis dit, ce serait quand même bonheur d'avoir du boulot. Vous savez, tant que vous n'avez pas d'enfant, on s'en fout un peu. Après, il y a les enfants dans le... Vous savez, les petits oiseaux qui ont les bouches ouvertes. Vous imaginez un moineau. Alors, bon, il pond. Alors, ça peut faire un peu mal quand on pond. Mais après, pendant 2-3 semaines, tu couves, ça va. Mais c'est quand il commence à faire... Oui, il cherchait des vers de terre et tout. Comme ça, j'ai acheté un perroquet une fois 7000 balles. J'ai dit, mais non de bleu. Mais pourquoi si cher? Il me dit, mais c'est une race spéciale, il pond des œufs cubiques. J'ai dit, mais il parle au moins. Il m'a dit, oui, il fait aïe. Alors, ça veut dire qu'une fois que vous avez des bouches à nourrir, il faut faire du boulot. Alors, mais j'ai essayé d'aller dans le jardin, sortir des vers de terre et tout, mais les gamins, ils n'aiment pas beaucoup. Alors, quand ils sont nés, ce qui était bonheur, c'est que, je me souviens, c'était en juin 86, on était avec deux copains, puis on disait, c'est quand même pas le moment de faire des gamins. Mais vous savez pourquoi, en juin 86, tout le monde disait, c'est quand même pas le moment de faire des gamins? Non. C'est Tchernobyl qui avait explosé.
Mais vous êtes rentré à la radio en 86 alors ?
Non, alors
87.
J'ai attendu qu'elle soit. C'est-à-dire qu'elle est née le 3 mars 87, c'était Mardi Gras. Et depuis, alors, on peut acheter des multipacks de chocolat qui s'appellent Mars. C'est marqué 3 mars. Donc elle a 31. Et là, je l'ai amenée en 37 ou 38, et ça fait donc à peu près 35 fois qu'elle reçoit 3 mars à son anniversaire. Alors, elle est un peu embêtée, parce que moi, je suis du 19 mars, donc ça coûte beaucoup plus cher.
Et vous, je ne sais pas, José, Eliane, Olivier, votre rapport à la radio, votre rapport au son? Oui, Eliane?
Alors, pour moi, je suis un petit peu impressionnée d'être à côté de Daniel. Non, ça va mieux. Merci. Et pour moi, la radio, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie depuis une année, donc à Pavillon Nomade. Et ça m'apporte énormément au niveau des rencontres, au niveau des sujets. Et je suis très contente de voir, comme aujourd'hui, quand il y a plein de monde. Des nouvelles personnes, des gens déshabitués. Et surtout, ben, aujourd'hui, que c'est Marie-Claude qui anime l'émission, ça nous change un peu. Non, mais Elvio, il n'y a pas de souci, hein, tu peux continuer à faire la radio. Mais c'est vraiment... j'invite les personnes qui nous écoutent à faire un... à venir voir. Parce que moi, ce qu'Elvio m'avait dit quand il m'avait parlé de la radio, j'ai dit, ouais, bon, je vais écouter. Il m'a dit, non, viens voir. Et c'est vrai que... Ça m'a permis dès le départ de pouvoir parler, de rencontrer des gens fantastiques. Et pour moi, c'est quelque chose qui me fait plaisir. Je sais que le jeudi, j'ai la radio. Alors voilà ce que j'avais envie de partager avec vous.
Magnifique, José.
Vous venez de dire que c'est sûrement une année que vous avez fait la radio.
Oui.
Mais ça c'est venu d'un clic ou vous avez déjà pensé à faire avant?
Alors, je n'ai pas du tout pensé faire ça, parce que je suis plutôt une femme d'extérieur qu'une femme d'intérieur. Donc, dedans, à local, ce n'était pas trop pour moi. Et puis, en fait, je me suis rendu compte, en créant des sujets dont je pouvais parler, Et c'est quelque chose qui était nouveau, en fait, pour moi depuis une année. Je ne connaissais absolument pas la radio.
Merci.
Mais de rien.
Élodie ?
Oui, alors bah, moi, ça fait pas si longtemps non plus que je fais de la radio. Ça doit faire 3 semaines. Enfin, 4 semaines. Ah,
merci. José a bien compté.
Non, José était venu avec moi la première fois aussi. Puis, oui, c'est vrai que ça fait du bien de parler à la radio parce que moi, j'ai jamais eu. Enfin, j'étais vraiment assez timide avant. Et puis, en fait, c'est possible de parler, de se livrer sur des sujets qui nous tiennent à cœur. Mm-hmm. Bon, je sais même plus ce que je voulais dire, en fait. Je passe le micro à ma voisine. Je reviens après.
Flore.
Moi, en fait, ça me fait d'entendre David, ça me fait rappeler plein de souvenirs parce que j'ai vécu avec mes grands-parents. Donc, j'ai connu la télé en noir et blanc et la fameuse radio. Et mon grand-papa paternel, il avait toujours sa petite radio avec lui. Donc, j'ai connu la radio avant la télé. Mais après, c'est vrai que ça s'est perdu et c'est dommage. Et j'aurais jamais pensé non plus participer à une émission de radio. Mais je trouve ça génial. Et découvrir des personnes vraiment intéressantes. Je crois que je pourrais l'écouter pendant... je pourrais l'écouter tous les jours.
Je crois que c'est quelqu'un de fascinant, justement.
Justement, Daniel. C'est vraiment quelqu'un de fascinant, d'hyper drôle. Et un personnage que je connais à peine, mais je l'adore déjà, quoi.
Olivier, vous avez envie d'ajouter quelque chose ?
Oui, volontiers. Moi, j'avoue que c'est ma première expérience ici avec vous et je suis très, très content de pouvoir participer à cela. J'ajoute qu'effectivement, Daniel, c'est le genre de grand-papa qu'on aura bien envie d'écouter les soirées à nous raconter des anecdotes.
Grand-papa Daniel, moi, j'aime beaucoup ça.
Ouais, je crois que j'avoue que...
Moi, mes petits-enfants, j'ai un petit qui m'appelle Pépé Ballon.
Vous nous expliquerez pourquoi juste après. Olivier, oui.
Oh, moi, c'est un peu tout.
Ah, d'accord.
Je vous remercie. Okay.
Alors, pourquoi Pépé Ballon ?
Donc, la première, Espace 2, ils font des ballons à gonfler pour distribuer aux enfants, comme ça. J'en ai toujours dans la poche, comme ça, quand il y a des enfants. Puis, on était à l'enterrement de l'arrière-grand-père. Puis, le petit, qui avait 2 ans et demi, mais il s'emmerdait un peu. Alors, je lui ai gonflé un ballon marqué Espace 2 dessus. C'était à la chapelle de Corsier, en dessus de Vevey. Puis pendant l'enterrement, alors, attendez, j'ai tellement de petits-enfants, c'était Simon, alors il avait ce ballon. Il faisait... Alors depuis, il m'appelle Pépé Ballon, parce que donc il a découvert le ballon qui fait... pendant l'enterrement de l'arrière-grand-père. Alors maintenant, c'est moi la star.
Évidemment. Daniel, vous maniez les mots avec une extraordinaire facilité, on l'entend.
Vous aussi,
et justement... Parlons-en de ces mots, puisque ce samedi, la médiathèque de Martigny organise pour la première fois une grande dictée qui a lieu donc à la médiathèque, avenue de la Gare 15, à Martigny.
Il y a des dictées partout dans le monde. C'est la journée de la de je sais plus quoi, du français.
La il y a effectivement, c'est la journée de la dictée.
Il y a même une dictée dans la gare de Lille.
Oui, mais là,
je ne peux pas aller parce que je suis coincé à Martigny.
Bah oui, vous êtes coincé.
Dans le train.
Parce que c'est vous qui officiez en proposant un texte écrit par vos soins.
Ah oui, je propose une dictée, dictée par mes soins, écrite par mes soins, avec des vacheries, parce que le français, c'est compliqué. Mm-hmm. Par exemple, groseiller, vous écrivez comment, groseiller ?
Comme ça se prononce. Hein.
Allez-y, allez-y, j'ai...
Alors, G-R-O-S... I, 2L, I, E, R.
Voilà, eh ben, c'est très rare que les gens mettent le I après les 2L. Parce qu'on écrit groseiller. Oui, vous avez mis. Mais voilà, et ça, c'est une faute qu'on fait souvent. Alors qu'on dit fraisier, pommier. Voilà, il n'y a qu'un fruit qu'on ne dit pas, qu'on ne met pas le I avant le E. C'est le péché, parce que péchier, c'est vraiment un mot. On a le droit de tout dire, mais quand même, ça, c'est pas un pasteur-ci, quoi.
J'ai envie de savoir, avec cette dictée, est-ce que vous étiez bon élève, Daniel ?
Moi, je suis blessé, meurtri, parce qu'en première primaire, j'ai fait une demi-faute à la dictée. J'ai oublié l'accent circonflexe sur le U de brûle. Alors, je peux vous dire que maintenant qu'on peut le supprimer, je me sens réhabilité, quoi.
D'accord. Et vous, autour de la table, quels souvenirs vous avez des dictées ? Olivier ? Flore ?
Alors, bon, moi, je suis arrivée en Suisse, j'avais 9 ans. Donc, ouais, ça a été compliqué. Hein. Ça a été assez compliqué. Donc, c'était pas là où j'étais le plus forte. Mais après, avec la lecture, mais plus tard. Plus tard, c'est venu la lecture. Et ça m'a beaucoup aidée.
Eliane ?
Ce que je voulais rebondir un peu sur ce que disait Elodie. Flore, pardon, oh là là, on est tellement nombreux que je me trompe. Moi, j'ai toujours adoré lire depuis enfant. Et à l'école, la dictée, pour moi, c'était un grand plaisir. Dit que le calcul oral, non, ça ne va pas le faire. Et ça ne le fait toujours pas. Mais la dictée, les rédactions, écrire, j'écris énormément. Donc, pour moi, l'orthographe, c'est important. Quand on voit le nombre de courriers qu'on reçoit, il y a des fautes. C'est incroyable. Mais oui, Daniel.
Oui, mais c'est tellement pas grave. Parce que moi, je fais une dictée, mais moi, je pense qu'il y a des règles dont on n'a pas besoin. Puis les règles, c'est un peu bizarre. Des fois, on croit que c'est... Des fois, on dit, oh, c'est tellement compliqué le français, c'est juste parce que c'est raciste. Comme ça, ceux qui viennent plus tard, ils ont de la peine à écrire. Par exemple, doigt. Le doigt, on écrit D-O-I, G-T, alors qu'on pourrait dire écrire D-O-I. Eh bien, ce qui est drôle, c'est que le fait qu'il y a le G à doigt et le T, ça permet à ceux qui parlent mal de français de reconnaître que c'est le doigt quand ils lisent. Ils ne savent pas quand ils vont dire doigt ou doigt. Mais à cause de GT, tous ceux qui disent dans leur vie, dans leur langue, digito ou dito ou digito, voilà, d'un coup, ils reconnaissent les mots comme ça. Donc c'est des fois, ça peut être méchant, mais ça peut être très gentil, l'orthographe. Mais à part ça, il faut pas avoir de règles dans la vie, il faut se laisser aller.
Elvio ?
Alors, Daniel, on applaudit votre érudition et vos connaissances. Et j'aimerais savoir d'où elles viennent à la base, en fait. Vous avez fait quoi comme études, formation et tout, avant la radio ?
Mais j'étais constipé quand j'étais petit, ce qui fait que je passais des heures sur le pot de chambre. Donc, je lisais le Nouvelliste à 2 ans et demi.
Super. Okay.
Et puis, j'aimais beaucoup les lettres. Par exemple, quand on descendait, j'étais dans le pouce-pouce, puis il y avait le M de la Migros écrit en gros, puis je disais ça veut dire maman. Le M. Donc j'ai toujours aimé les lettres depuis tout petit, mais c'est surtout parce que je m'embêtais un peu. Je suis un type, j'ai besoin constamment d'avoir des stimulations. C'est ma psychologie à moi. Il y en a qui roulent à contresens sur l'autoroute. Moi, je prends un bouquin en toilette. Mais voilà, mais c'est juste... voilà. Alors après, le problème, c'est que je suis un peu hypermnésique aussi. Ça, c'est très, très compliqué. Parce que j'ai toujours plein d'images dans la tête, des trucs et tout. Ce qui fait que j'ai de la peine à m'endormir, moi, parce que j'ai plein d'images. Moi, si on me dit un mot, je pense à 1000 trucs comme ça et tout. Alors, par exemple, si je veux dormir, j'écoute la radio. Parce qu'au moins, je pense qu'à une chose à la fois, puis je me concentre à fond. Mais à l'école, j'avais une difficulté à me concentrer. Moi, après 5 secondes, je pense à autre chose déjà, donc c'est très très difficile.
Et donc vous n'avez pas répondu à la question.
Oui, mais je pense que c'est parce que je suis un gouffre sans fond, mais je pense que je dois avoir des connexions dans le cerveau qui sont un peu embêtantes. Alors après, il ne faut pas confondre la culture et l'érudition. C'est vrai qu'on peut savoir plein de trucs. Alors, je ne sais pas, la Massa, la Lonza, la Dala, la Raspi, la Lienne, la Sionne, la Morge, la Liserne, la Lozère. Vous avez appris ça avec la Bine, la Salti, oui. La Diveria, la Vierge, ça. Comment elles s'appellent les trois torrents, vous voyez, ça ne sert à rien, les trois torrents. Il y a trois torrents, alors. La Tine, le torrent des Fayots, la Vierge. Puis après, on dit, mais non, c'est pas parce qu'il y a trois torrents qu'elle s'appelle trois torrents. Pas trois, ça veut dire, ça veut dire au-delà du torrent. Il y a la Tine, puis on va de l'autre côté, il y a trois. Mais bref, je sais pas. Mais je pense que ça me calme. C'est un toc.
Vous collectionnez les livres, alors ?
Alors, je collectionne... non, mais j'ai de la peine à jeter les choses. Donc, si les choses...
Syndrome de Diogène ou...
Non, mais si les choses se disparaissent toutes seules, je suis d'accord de les laisser disparaître.
D'accord.
Par exemple, j'avais les cahiers d'école enfantine dans un carton, puis un jour, les voisins du dessous ont mis le feu, puis j'ai trouvé ça bon arbre, ça fait de la place. Mais j'aurais eu de la peine à le jeter, effectivement. Mais, alors, j'ai beaucoup de livres, effectivement. Voilà.
Elvio, je vous propose de garder le micro parce qu'il est l'heure de votre chronique que vous nous proposez, que vous allez nous partager. De quoi on parle aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une pépite de l'animation 2024 qui s'est donné les moyens de monter sur ses grands chevaux grâce au financement de la New Line Cinema, de la Warner Bros. Animation et à son réalisateur Kenji Kamiyama, qui, pour les connaisseurs, a travaillé sur les excellents animés City Hunter, Akira et Kiki la petite sorcière, entre autres. Cette œuvre est un préquel à la fameuse trilogie... Oui, Eliane ?
J'ai pas compris. Ah, oui. Le mot préquel ou...
Préquel. Préquel, ça... en fait, ça veut dire que c'est quelque chose qui se passe avant. Avant, en fait, la trilogie de Peter Jackson. Et elle se nomme, en fait, cette œuvre, Le Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim. Alors, ici, il n'y a pas d'elfes, pas de nains, pas non plus de hobbits ou d'orques, mais une aventure bien humaine qui narre l'épopée d'Hera, la fille de Helm Hammerhand, roi des Rohan. En plongeant au cœur de cette histoire légendaire, nous avons déjà le plaisir d'avoir la bande-son originale de la série de films ainsi que le thème qui nous lie aux Rohan. Puis, nous ne pouvons rester indifférents à la qualité graphique des images défilant de manière très fluide et à la finesse des dessins munis d'une superbe coloration. Le synopsis, c'est en 183 avant les événements de la communauté de l'anneau que ce récit dévoile le destin de la maison de Helm, du roi légendaire du Rohan et de sa fille indisciplinée et éprise de liberté, qui défie les conventions en chevauchant à travers les terres sauvages et en affrontant des dangers insoupçonnés. Son courage et sa détermination joueront un rôle crucial dans la défense du Rohan contre les forces obscures qui menacent de l'engloutir. L'aventure, elle, est bourrée de références et elle vous dévoilera au fur et à mesure de son défilement des réponses à bien des questions restées en suspens dans les autres épisodes. Je vous souhaite d'ores et déjà un excellent visionnage et je vous donne rendez-vous jeudi prochain avec un groupe de rock américain qui rend un vibrant hommage à Led Zeppelin, j'ai nommé les Greta Van Fleet.
Quel nom ? C'est une pépite à découvrir sur quel vecteur ?
Alors, vous pouvez les avoir soit en Blu-ray DVD ou vous, c'est actuellement en fait dans tous les streamings qu'on trouve sur les plateformes. Voilà.
D'accord. Je vous propose de nous retrouver dans un instant après une chanson. C'est la chanson dédicace de Joël. Aujourd'hui, c'est Florent Pagny.
Dis-moi, pourquoi t'es comme ça ? Pourquoi ça va pas ? Pourquoi t'essayes pas ? Pourquoi tu veux pas ? Dis-moi, pourquoi tu souris ? Et pourquoi tu pleures? Pourquoi t'as envie? Et pourquoi t'as peur? Dis-moi, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu crois pas? Pourquoi tu crois plus? Pourquoi tu sais plus? Tu vois, tu retrouves plus ta rue. T'as paumé l'étage, je crois bien que t'es perdu. Sans rien dire. Ah oui, tu crois. Tu es resté planté là, à te voir partir dans tes délires et te laisser faire n'importe quoi. Dis-moi, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tout ça, que tu reviendras pas si tu t'en vas.
Le direct.
C'était la chanson dédicace de Joël pour les personnes qui souffrent d'addiction. José, vous aviez une question pour Daniel.
Oui, mais je viens un petit peu en arrière de l'émission là. Oui. Quand vous parlez de l'église, de l'hostie, oui. Il y a une chose que j'ai jamais compris dans l'église, c'est qu'il donne l'hostie, c'est le corps de Christ, mais ça, il boit que le prêtre.
Oui. Il y a une. Oui, ça c'est d'ailleurs c'est rigolo parce que constamment, ça fait 2000 ans qu'il y a toujours des gens qui posent la question, qui oui. réclament et tout. Alors par exemple, au XIVe siècle, c'était surtout en Bohême, là, il y a eu des gens qu'on appelle les calistins, le calice. Oui. Ah, ils voulaient boire le oui. sang aussi. Et. En réclamant ça. Alors le problème, on peut. Alors il y a des, par exemple chez les orthodoxes, ils communient. Alors ils trempent le pain dedans pour boire et tout. Après avec le calice, le problème c'est qu'il y avait plusieurs problèmes. C'est des problèmes d'hygiène. Par exemple, on boit tous dans la même coupe. Alors par exemple chez les protestants où ils boivent. Une fois j'ai été dans un culte protestant où ils boivent aussi comme ça. Alors il y avait, au lieu d'avoir une coupe où on boit tous dedans, c'est sympa de boire tous au même, oui. même truc. Ça. Alors ils avaient chacun un petit gobelet comme ça et tout. Ben bon, voilà. Alors alors maintenant les catholiques, on a le droit chez les catholiques de boire le vin aussi. Mais alors c'est compliqué. Si quelqu'un renverse et tout, alors ils essayent d'être le plus voilà. Alors par exemple, l'époque de mes grands-parents, quand on avait 20 ans de mariage ou 25 ans de mariage ou 30 ans de mariage, ils refaisaient comme le mariage à l'église. Ils se remettaient devant comme ça, puis alors, ils avaient le droit de communier au calice. C'était un peu voilà. Et puis il y a des gens qui ont des problèmes de gluten. Et dans les hosties, il y a du gluten. Alors au début, on disait il n'y a qu'à faire des hosties sans gluten. Puis ils disaient, non, mais si c'est des hosties sans gluten, c'est pas tout à fait comme du pain. Alors, le mieux, c'est de communier au calice. Alors, par exemple, ceux qui ont des problèmes de gluten, ils ont le droit de communier au calice. Et je pense que si vous demandez au prêtre de pouvoir communier au calice, si c'est une petite messe où vous n'êtes pas beaucoup, il va vous donner. Tandis que c'est vrai que s'il y a 500 personnes, c'est un peu compliqué. Et puis, le pain de l'hostie, si on n'a pas tout mangé, on peut mettre dans le tabernacle. Tandis que le vin, on ne peut pas tellement garder. Voilà. Mais vous avez raison, ce serait sympa d'avoir les deux. Ce serait mieux, moi, voilà.
Okay. Merci, c'était la réponse que j'attendais.
Oui, mais ça vous a manqué. Vous auriez bien aimé aussi quand vous étiez enfant. Mais vous avez dit à la messe quand vous étiez enfant
Pas tout à fait.
Non, mais vous avez fait la première communion ou pas?
Oui, ça j'avais fait.
D'accord, mais
je suis catholique, mais oui. pas...
Oui, mais quand vous étiez petit, vous avez été...
Parce que j'étais obligé, oui.
Voilà, alors c'est vrai que chez les enfants, on ne va pas leur donner du vin. Oui. Chez les enfants, on ne va pas leur donner du vin.
Ben,
Et puis, voilà. Mais c'est vrai, moi, je trouverais que ce serait sympa de voilà, puis que ce soit un peu... Après, il y a l'autre question, c'est il faudrait que ça ressemble un peu à du pain, quand même.
Oui.
Alors, si c'est du pain qui fait des miettes, après, on a embêté.
C'est un peu dommage, parce qu'il faut
c'est des choses comme ça. C'est dommage.
Mais en mariage, ça allait bien, c'était comme un petit apéro avant.
Oui, mais bien sûr, c'est ça. Le vin, en fait, il faut oublier que c'est... Le vin, c'est la fête. Donc, si on boit le vin, ça veut dire que c'est de la fête. Voilà, c'est clair. Alors, quand on est enfant... Moi, j'allais à l'apéro, puis mon père, il nous faisait juste mouiller les lèvres. Il nous donnait juste un petit peu sur le bord des lèvres, comme ça.
Élodie, vous avez envie de partager quelque chose ou de poser une question à Daniel, éventuellement?
Alors, plutôt poser une question en revenant à un sujet qui était juste après.
Oui.
Vous êtes fort au Scrabble et au mot croisé, ou...
Mais j'aime pas... Alors, le Scrabble... Parce que le Scrabble, le problème, c'est que le Scrabble, il faut pas seulement trouver des mots compliqués, il faut trouver des mots qui rapportent beaucoup... Parce que vous pouvez mettre un mot génial, et puis ça vous rapporte 17 points, alors que vous mettez deux lettres sous le bon endroit, vous avez 62 points d'un coup, donc ça m'énerve. Parce que moi, je n'ai pas l'envie d'avoir une stratégie. Alors voilà. Alors, y a... Mais par exemple, les gens qui font du Scrabble, qui vont venir à ma dictée, ils connaissent tous les noms, comme ça et tout. Les mots croisés, il y a deux sortes de gens qui font des mots croisés. Il y a les cruciverbistes, c'est ceux qui font c'est ceux qui font... Et puis il y a les verbicrucistes, c'est ceux qui inventent les mots croisés. Alors moi, j'aime bien inventer des mots croisés pour les autres, mais ça m'énerve de les faire. Par contre, j'écris beaucoup de poésie avec des formes très compliquées. Vous savez, les poésies, ça peut être libre, ou bien ça doit avoir 8 syllabes par ligne, avec des rimes compliquées, comme ça. Alors ça, c'est comme de faire des mots croisés, parce qu'il faut trouver le bon mot qui rentre au bon endroit, avec le bon rythme, la bonne image. Sauf qu'à la fin, ça raconte une histoire, puis c'est un peu plus drôle. Mais quand je fais des poésies, des fois comme ça, c'est comme d'autres, ils font des mots croisés. Mais ouais.
Et vous, Élodie, vous aimez bien le Scrabble?
Ah, pas du tout.
Ah. Voilà. Non, mais les mots, je trouve bonheur de les utiliser pour raconter des choses. Après, si c'est juste pour les empiler, c'est dommage.
Eliane, vous avez une question à Daniel, hein? Ou une remarque, une réflexion?
Oui, Daniel. Donc, pas de mots croisés, pas de mots fléchés, pas de Scrabble. Mais comment vous faites pour avoir une telle érudition?
Donc, d'avoir beaucoup de mots dans la tête, c'est ça? Il y a des choses, des fois, pourquoi, comment je fais pour avoir autant de taches de rousseur, par exemple? Cette question, hein? Mais alors, je pense qu'on n'a pas de réponse à tout, quoi. Alors, bien sûr, peut-être que c'est pas si j'ai un grand-père rouquin, ou quand je vais au soleil, ça sort comme ça. Mais alors, l'amour des mots, c'est un peu comme les chevaux. Des fois, ça tombe et ça revient. Voilà. Alors moi, par exemple, il y a un truc génial. C'est que j'ai en français, j'ai un vocabulaire, mais hallucinant. Et je suis nul pour les langues étrangères, si elles sont parlées par quelqu'un. Par exemple, l'hébreu, le grec, le latin, ça va bien. Mais si c'est l'allemand, l'italien, l'espagnol, le portugais, l'arabe, le chinois, dès qu'il y a des gens qui parlent, moi, j'arrive plus, quoi. Je sais pas pourquoi. Peut-être que parce que j'aime bien lire puis pas écouter.
Et non. Vous, autour de la table,
vous parlez beaucoup de langues.
Vous êtes doué pour les langues.
Vous avez combien de langues vous parlez, Flore?
Donc je suis d'origine portugaise, donc ouais. Je parle portugais, ouais. Bah, le français bien sûr.
Ouais.
Je me débrouille assez bien en italien, ouais. Et en espagnol et ouais. Un peu l'allemand.
Voilà.
5.
Voilà. Wow. Ben moi alors c'est rien. Pour moi c'est du brouillard. Alors j'aime bien les langues. Alors, mes enfants, ils parlent... Moi, j'ai un fils qui vit en Espagne, qui parle portugais, espagnol, français, allemand, anglais, italien, à peu près la même chose. Un autre fils aussi. En portugais, moi, je sais des berceuses pour endormir les enfants.
Des gros mots.
Olivier, néné, vous parlez d'autres langues?
Oui, bah, j'ai quelques racines allemandes. Du coup, c'est vrai qu'il y a l'allemand. Il y a l'anglais que j'adore, que je trouve très familier avec l'allemand et facile à apprendre. Et puis bon, le français que j'essaye de parler en tant que maternelle, mais bon, je m'en fous un peu de la dictée, moi.
Élodie ?
Alors, j'essaye de me débrouiller en français, c'est pas facile souvent. L'anglais... Bon, en fait, de base, j'aime pas trop parler, donc je préfère plutôt écrire. Mmh. Donc l'anglais, je me débrouille à l'écrit.
Mais quand vous écoutez une chanson en anglais, vous écoutez les paroles ou bien simplement la musique ?
Oh, la musique.
Parce qu'on entend beaucoup d'anglais, oui. Hein, mais la plupart du temps, on n'écoute pas.
Bah, l'air a l'air sympa, donc oui, je me dis, voilà, mais pour essayer de comprendre. Après, l'italien aussi, je me débrouille, et puis l'allemand aussi, un peu.
Oh, mais c'est génial, ouais.
Elvio ?
Daniel, donc, vous écrivez des poèmes, mais vous arrivez-il d'écrire aussi des pièces de théâtre ou d'écrire peut-être composer des chansons ?
Oui, alors
ou...
moi, le matin, quand je me réveille, j'écris une poésie. C'est la première chose que je fais. C'est comme un pianiste, il va au piano puis il fait des gammes comme ça. Parce que si vous écrivez une poésie qui doit avoir des rimes très compliquées, avec les comptes et les machins comme ça, ça vous oblige à vous concentrer. Puis alors après, juste après, si j'écris un sketch ou une histoire, alors l'imaginaire, il est complètement... Voilà, c'est comme vous faites des échauffements d'abord. Mm-hmm. Alors moi, faire un poème, c'est faire des échauffements. Alors, c'est pas de la grande poésie, mais c'est un peu comme de faire du Scrabble ou des pompes pour se chauffer. Mm-hmm. Puis après, une fois que... Bah, si vous voulez dire quelque chose de sympa, mais que le mot, il doit se terminer par onf, ben, il faut réfléchir un petit moment. Merci. Voilà. Vous connaissez un mot qui se termine par onf?
Je réfléchis, mais j'invite toute la tablée... À réfléchir également.
Ronfle.
Non, onf.
Onf. Ah, onf. Ah, j'ai onf. Pas bien compris.
Non, il n'y a que
triomphe. Triomphe.
Triomphe. Triomphe. Il n'y a que triomphe. Ce qui fait que pendant des centaines d'années, des types cherchaient une rime à triomphe. Puis un jour, il y a un type qui est arrivé, il a dit adonf. Puis, oh, génial. Non, maintenant, on peut faire des poésies avec adonf et puis triomphe. Mais avant, on ne pouvait pas. Alors, une fois que vous avez cherché comme ça, après, quand vous devez. D'une fois, vous êtes échauffé. Après, vous courez dans la forêt en zigzagant, en sautant un petit muret. Tout va bien. Alors,
vous faites le matin,
le matin, moi, quand j'écris la poésie comme ça, ça, c'est juste pour me chauffer. Puis après, alors, l'imagination, il part partout parce qu'on s'est chauffé.
Bah, Eliane, vous avez le micro, gardez-le puisque c'est le moment de votre chronique parce qu'on arrive gentiment à la fin de cette émission et je vous propose de nous dire ce que vous avez envie de nous dire à propos du cheval, je crois.
Oui, c'est un sujet que j'ai choisi parce que ça fait partie de mes passions depuis toujours avec la Formule 1, la MotoGP que j'ai parlé la semaine dernière et le rugby aussi, que j'adore, et le foot, bien sûr, obsession, parfait. Hein. Donc, pour revenir à mon sujet, c'était pas évident pour moi de faire un résumé là-dessus, parce que c'est tellement vaste. Moi, j'ai d'ailleurs écrit un bouquin là-dessus, et dans le bouquin, il n'y a qu'une discipline, dans mon bouquin. Donc, ce que j'avais envie de vous dire, que le cheval, c'est un animal hypersensible et fragile. Il y a tout le temps quelque chose qui ne va pas. C'est tout le temps, il faut être un petit peu, reprendre les recettes de grand-mère pour soigner un peu le cheval. C'est un animal grégaire et de fuite devant le danger. Donc, des fois, ce n'est pas très drôle. Hein. En Suisse, on parle de demi-sang par le croisement d'un pur sang, donc un cheval de course, et d'une jument d'une autre catégorie, plus tranquille. Les nôtres, en Suisse, on les appelle les franches montagnes, qui, au fil des années, se sont considérablement affinées. Un peu comme les sels français. Et au Portugal, on a les chevaux lusitaniens, c'est des perles, pas très grands, mais c'est des perles. Et en Espagne, les andalous, c'est juste des chevaux très ronds, très aériens. Et bien sûr, les pures races espagnoles pour la haute école. Vous connaissez tous les frisons. C'est les chevaux noirs et majestueux par excellence qu'on voit au cirque Knill. On distingue les jumeaux, les étalons et les hongres. Chaque cheval a son propre tempérament, un peu comme nous. Et les étalons, qui sont les chevaux les plus intéressants à monter, ils montent très vite en adrénaline et c'est pas facile à gérer parce qu'ils redescendent pas comme ça dans le calme. Et par contre, pour faire des représentations ou des spectacles, c'est juste, ils sont majestueux, quoi. On a pas mal de disciplines dans l'équitation. On a le dressage. Moi, je trouve que c'est trop rigide, mais il y a des gens qui font des concours, hein. Le saut d'obstacle que j'ai pratiqué pendant de nombreuses années en compétition, l'attelage et bien sûr le cross, comme on a vu au championnat, là, que je ne me rappelle plus où c'était. Mais c'est très dangereux le cross parce que les obstacles ne tombent pas. Donc quand il y a des accidents en général, c'est très grave. Et on trouve également 3 sortes de montes. La monte anglaise, donc c'est celle qui est pratiquée partout en Suisse. La monte western, donc c'est pas facile parce que c'est des selles différentes et on a les genoux complètement tordus, quoi. Et la monte Amazon, qui personnellement est devenue au fil des années ma discipline préféré, c'est très féminin, c'est juste magnifique. La complicité vient au fil du temps, personnellement par des balades, surtout où l'animal doit pouvoir nous faire confiance. Et il y a aussi des chevaux qui comptent plus que d'autres dans notre vie et qui nous touchent en plein cœur. 50 ans d'équitation m'ont permis d'en rencontrer une dizaine, tous différents mais uniques. Et là, ma préférence au jour d'aujourd'hui, c'est le travail à pied. C'est-à-dire que le cheval, il est en liberté, bon, dans un cadre, hein, bien sûr. Ça demande énormément de patience et de persévérance. Il est indispensable de savoir demander beaucoup pour obtenir un petit peu. Ma chance a été d'avoir des propriétaires qui, par manque de temps, m'ont confié leur monture. Et c'était un échange de bons procédés où je n'avais pas besoin de payer. Il faut du temps hein, pour faire d'équitation. Moi, je dis minimum 2 heures. Et le nerf de la guerre, beaucoup de moyens financiers. Hein. Quand on sait que les prix moyens d'une pension varient dans le Chablais entre 800 et 1200 francs, donc c'est juste pour le box, la litière et la nourriture. Ça ne comprend pas la mise au pré qu'il faut payer, tout ce qu'on doit, ce qui est à côté en fait. Hein. On peut faire brosser son cheval, mais il faut payer. Et surtout, il y a des frais annexes, comme le maréchal ferrant toutes les 4 à 6 semaines, si on a de la chance, le vétérinaire, le dentiste, l'ostéo, et j'en oublie. Voilà pourquoi je suis cavalière et pas propriétaire. Merci.
Merci, Eliane. Magnifique chronique, on a appris plein de choses. Est-ce que vous avez envie de réagir très rapidement, parce qu'on arrive un petit peu au bout de cette émission, José?
Voilà, moi c'est seulement pour dire merci à toute l'équipe, et à tout le monde qui ont passé des heures ici avec moi ces derniers jours. Parce que moi, je pars, c'est la dernière passage ici à la radio Pavillon Nomade. Alors, merci à tout le monde. Il y a tout le monde qui m'écoute. Merci beaucoup.
Alors, très bien. On vous dédie cette émission. Élodie, vous avez envie d'ajouter quelque chose, ou Flore, ou Olivier, à propos de la chronique d'Eliane, ou Daniel aussi?
Un jour, j'ai dit, tu as vu, il y a plein de chevaux là-bas. Puis on me dit, c'est pas des chevaux, c'est des chevaux. J'ai dit, non, mais d'accord, mais ça ressemble quand même à des chevaux, ou bien.
Élodie.
Oui, dans les disciplines qu'il y a, il y a aussi les courses hippiques, quand ils font le...
Oui,
le
course de trot.
Oui, le trot, le tiercé, enfin...
Oui, le tiercé, ben voilà, le tiercé. C'est tout des purs sangs.
C'est tout des purs sangs.
Et malheureusement, si un cheval dans cette discipline ne gagne pas, eh ben, c'est la boucherie.
Oh. Elvio.
Alors j'aimerais juste inviter Eliane à aller voir le film que j'ai présenté tout à l'heure, le film d'animation, parce qu'il parle des Rohirrim, hein, donc c'est les Rohans. Et ces Rohans, en fait, c'est le peuple des chevaux dans le monde du Seigneur des Anneaux. Donc, et c'est un très beau film qui tourne aussi et puis qui montre le respect de ce peuple auprès des chevaux.
Mais je n'y manquerai pas. J'ai noté d'ailleurs, donc je vais regarder ça.
Merci. Merci à toutes et tous. Une heure, cela passe très vite. Et on va terminer cette émission avec une très jolie chanson de Bourvil, La tendresse. Je crois qu'on en a bien besoin actuellement. Merci, Daniel Rosis.
Je vous en prie.
Je rappelle qu'on peut vous rejoindre samedi à la médiathèque de Martigny dès 16h pour la grande dictée.
À 16h.
Ah, bah oui,
avant,
à 16h.
Avec le crayon taillé, la gomme et tout. Hein.
Merci donc à vous toutes et tous. Merci à Mathéo pour la technique et puis à jeudi prochain.
On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 non. On ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien, être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, 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 le travail est nécessaire, mais s'il faut rester
des semaines sans rien faire, eh bien, on s'y fait. Mais vivre sans tendresse, le temps vous paraît long. Long, 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 le temps vous paraît long. Dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs, et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir. Oui, mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Non, 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 l'amour ne serait rien. Quand la vie impitoyable vous tombe dessus, qu'on n'est plus qu'un pauvre diable, broyé et déçu, alors sans la tendresse d'un cœur qui nous soutient, non, 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 on n'irait pas plus loin. Un enfant nous embrasse parce qu'on le rend heureux. Tous nos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs des torrents de tendresse pour que règne l'amour, règne l'amour jusqu'à la fin des jours.